Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien voilà, n'est-il pas vrai, tout un programme. On pourrait même dire que ce commandement d'amour, le grand et le premier commandement, nous dit Jésus, est de l'ordre du défi, de la gageure et de l'impossible. Car qui d'entre nous peut prétendre au cours de son existence avoir réussi à réunir en même temps et de manière absolue à la fois le cœur, l'âme, la force et la pensée afin d'aimer Dieu et ainsi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme un autre nous-mêmes. De plus, n'est-il pas vrai que nous faisons souvent exception de personne et que notre choix se porterait sur des hommes et des femmes avec qui nous aurions des affinités et dont nous désirions l'amitié et l'estime? Il est bien vrai qu'on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Plutôt que sur des personnes qui nous paraîtraient insignifiantes, marginales, voire méprisables, qui n'ont pas la même couleur de peau, des autres idées, des personnes qui auraient été battues, secouées par les tempêtes de la vie, jusqu'au point de vouloir se retirer de celle-ci en marge d'une existence normale et d'une société bien pensante. Et il y en a même qui se noient dans la Méditerranée. Il est bon de nous rappeler à ce propos que celui qui est dans la marge est aussi dans la page et que Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. J'ai lu dernièrement une phrase de Godard qui disait que le cinéma, c'est le temps à l'abri, mais non, le cinéma, c'est l'abri du temps, des choses qui font réfléchir comme ça. L'admirable récit que Luc nous fait d'un entretien avec Jésus, d'un docteur de la loi, un scribe, un homme religieux qui connaissait donc la loi sur le bout des doigts et qui l'a portée inscrite sur les phylactères, qui sont des petites boîtes carrées contenant les versets de la Torah, que les Juifs portent au bras et au front pendant la prière du matin. Cet admirable récit n'est pas seulement une délicate description d'agrément, mais elle vise au contraire à faire rentrer l'homme en lui-même et à bouleverser sa façon de penser et par là même d'agir. Cet entretien dont nous ne connaissons pas l'endroit se déroule en deux temps qui se terminent par une question et une exhortation de la part du Seigneur. La première partie débute donc par la question du docteur de la loi visant à mettre Jésus à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» J'ai failli faire un lapsus en disant « pour éviter la vie éternelle ». Peut-être celui-ci avait-il à la fois l'intention de s'instruire et celle de voir si Jésus répondrait de manière orthodoxe à sa question. La question que pose notre scribe trahit une idée de propre justice et Jésus le renvoie à la loi dont il lui demande d'indiquer le contenu, d'indiquer l'essence. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, c'est en fait l'aimer de toutes les puissances de notre être, de sorte que toutes les facultés de l'âme, affection, pensée, volonté, désir, émotion, soient pénétrés, soient imprégnés, dominés par cet amour qui devient alors l'unique mobile de toutes les actions. Mais est-il possible pour les hommes faillibles que nous sommes d'accomplir un tel commandement? Est-ce réaliste de parvenir à aimer ainsi? C'est Dieu qui nous répond par cet admirable passage du livre du Deutéronome, lui qui rend l'impossible possible. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera au ciel pour nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. » Pour ceux qui veulent lire ce passage, il se trouve en Deutéronome 30, les versets 11 à 14. La capacité de l'amour et la force de mettre en pratique ce double commandement d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes ne peuvent être reçus sans une profonde intimité de communion avec le Seigneur par la prière, ce cœur à cœur dont nous avons le privilège de cultiver avec Dieu, où nous pouvons exprimer toutes nos émotions, même notre non-amour par rapport aux autres, même parfois notre haine, nos tristesses, nos révoltes, notre incapacité à suivre ce commandement. Et nous sommes invités également à la méditation régulière de sa parole, cette méditation qui est aussi prière. En cultivant cette relation d'amour avec notre Dieu, l'amour que nous recevrons de lui se reflétera tout naturellement au travers de nous et brisera les barrières de l'égoïsme pour se déverser sur notre prochain, pour désirer son bonheur comme le nôtre propre et y contribuer selon les forces reçues, comme s'il s'agissait de nous-mêmes. En disant au docteur de la loi, « fais cela », Jésus, qui connaissait la parfaite impossibilité naturelle de l'homme d'aimer ainsi Dieu et le prochain de toutes les fibres de son être, le pousse encore dans ses derniers retranchements, dans les derniers retranchements de son orgueil et de sa mauvaise conscience, qui l'amène encore néanmoins à une dernière question pour se justifier personnellement. Et qui donc est mon prochain ? C'est alors qu'à l'un de ces juifs qui excluaient les étrangers pour ne considérer comme leur prochain que leurs compatriotes, Jésus répond par une parabole extraordinaire que l'amour du prochain peut être communiqué par tout homme, y compris et même par un Samaritain, c'est-à-dire par un homme méprisé et haï de tout juif, envers tous les hommes, y compris envers le juif qui précisément rejette le premier. Il y a aussi de l'humour dans cette réponse. C'est un retournement de situation. Le juif, lui, on le trouve dépouillé de ses vêtements, couvert de blessures, à demi-mort sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, une route fréquentée d'habitude par des brigands arabes qui attaquaient souvent les voyageurs, les laissaient blessés ou morts sous un soleil torride, brûlant les pierres et les cailloux de cette région montagneuse qu'elle traverse. Mais quelle dureté de cœur ne faudrait-il pas pour le voir avec indifférence? Cependant, Jésus fait passer à dessein un sacrificateur et un lévite, deux hommes qui, par leur lumière, comme par leur fonction sacrée, auraient dû être les premiers à accomplir la loi de l'amour, de la compassion et de la charité. Mais ils passent tout outre. Ils passent du côté opposé, ne voulant même pas s'approcher du malheureux. Et c'est un Samaritain. C'est ce Samaritain, cet exclu, ce paria, qui en est aussitôt touché de compassion, ému dans ses entrailles, et qui vient à son secours avec empressement. Oh, il ne se contente pas d'utiliser la pharmacologie naturelle de l'Orient avec l'huile d'olive adoucissante et le vin désinfectant pour purifier et adoucir les plaies du blessé, mais il le monte encore sur son âne. Il le transporte à l'hôtellerie, le soigne, passe la nuit auprès de lui, se charge de sa dépense et ne le quitte le lendemain qu'en le recommandant à la sollicitude de l'hôte à qui il donne une avance financière pour les besoins du malade. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette œuvre de charité est véritablement complète et que si cet étranger était son frère ou son ami, le Samaritain n'aurait rien pu faire de plus. Alors, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain ? Demande Jésus à notre docteur de la loi qui pouvait à juste titre se demander à lui-même : Le suis-je, moi ? L'aurais-je été à la place du Samaritain ? Telle est la question que le Christ nous pose à chacune et à chacun d'entre nous. Et si nous rentrons en nous-mêmes pour nous demander si nous sommes un prochain pour les autres, si nous savons discerner le visage du Seigneur en tout homme, quel qu'il soit, par-delà les barrières sociales, culturelles, morales et religieuses, quelle que soit la situation de sa vie, ses conditions existentielles, alors, allons, exerçons la miséricorde que nous recevons de Dieu et soyons assurés que ce que nous accomplissons là, c'est au Christ lui-même que nous le faisons. Amen.